Nous allons donc essayer de continuer ce que représente cette assimilation intentionnelle de l'appréhension. Et vouloir expliquer ce que représente cette... Parce qu'il s'agit de l'expliquer. Nous constatons qu'il existe nécessairement une opération avant le jugement. Nous caractérisons cette opération en disant que c'est une assimilation intentionnelle. Parce que nous n'avons pas une expérience directe. Nous avons quand même une certaine expérience. C'est que dans la connaissance, nous devenons l'autre. Quand je dis animal, je deviens l'animal. Intellectuellement, heureusement. Non, je respecte l'animal et intentionnellement, je deviens animal. Quand je pense la couleur, intentionnellement. Ça, nous pouvons en avoir l'expérience. Puisque nous avons l'expérience au niveau de la connaissance sensible et nous avons une certaine expérience dans le jugement qu'il y a en effet l'assimilation de formes simples, de déterminations simples. Et nous essayons maintenant d'expliquer cette appréhension, cette assimilation intentionnelle. Et c'est là le point de vue difficile. Cette assimilation intentionnelle, il s'agit de l'expliquer. Cette assimilation intentionnelle se termine au fait que je saisis, je deviens telle forme. Telle fluidité, les diverses catégories. Je deviens ces formes-là. Elles sont donc présentes au plus intime de mon intelligence. Elles sont présentes en moi. Et je peux les dire, et les catégories les disent. Donc je constate cela. Je constate par le legein qu'il y a nécessairement un noël, qu'il y a nécessairement une pensée. Je remonte de ce qu'il dit, les termes indivisibles, à ce que représente cette pensée, ce fait d'assimiler ces termes, d'assimiler ces divers termes qui ont une signification propre. J'essaie de comprendre la signification de ces termes simples, qui impliquent une première connaissance, une connaissance fondamentale à l'égard de ces diverses fluidités. S'il y a assimilation intentionnelle de cette forme, je deviens intellectuellement, intentionnellement cette forme. Il faut donc que cette forme soit au point de départ de l'assimilation. Une forme intentionnelle. Puisqu'il y a assimilation. L'assimilation détermine, je veux dire, cette forme détermine la forme même de mon assimilation. Et donc, il faut que cette forme soit au point de départ. Pour être au point de départ, cette forme doit être ou innée ou acquise. Si cette forme est innée, vous voyez tout de suite la conséquence. Ça ne correspond plus à la réalité du point de départ, où je vois que par l'expérience, ma connaissance progresse. Si elle est innée, il n'y a pas de progrès au sens rigoureux de la connaissance. Puisque elle est première, il faut simplement une purification. Un peu à la manière de Platon, vous voyez. Je purifie les choses qui me sont données en premier lieu. J'ai des formes a priori, des formes innées en moi qui me sont données. Mais le problème de Descartes. Descartes dit qu'il y a des formes innées en moi. Dès le point de départ, j'ai des formes premières. Ça va jusque Rosmini qui dit qu'il y a la forme d'être, le concept d'être qui est inné. Dans le berceau, je faisais de la métaphysique tout en criant. Je ne m'en rappelle pas, mais c'est comme ça. Parce que j'avais la forme d'être. J'avais le concept d'être, donc je pouvais faire de la métaphysique. Je me rappelle beaucoup mieux mes cris que mon concept d'être, ça, je crois, normalement. Mais pour certains, il, vous voyez, donc il pose a priori. Parce que ça ne correspond pas du tout à l'expérience. L'expérience me montre au contraire que je suis dépendant de l'expérience me montre que je suis dépendant de l'expérience pour progresser dans ma vie intellectuelle. Qu'il y a un progrès dans ma vie intellectuelle. Et que ce progrès dépend de certaines expériences. Je vois dans ma vie intellectuelle que j'ai posé le point de vue de cette saisie première à partir du jugement d'existence. Or, le jugement d'existence dépend de la réalité. Donc, je ne peux pas accepter ces formes innées. Mais je suis obligé de le réfuter, puisque ça a été soutenu. Donc je renvoie promener ces formes innées. Je dois donc dire que ces formes sont acquises. Mais comment peuvent-elles être acquises? Puisqu'elles sont, d'une certaine manière, comprenez bien, d'une certaine manière, quelque chose d'élémentaire qui est antérieur, pas dans le temps, mais antérieur à ce que représente le jugement d'existence. C'est comme ça que je l'ai posé. Une chose élémentaire, c'est une opération élémentaire. Alors, c'est la grosse question. Vous voyez, c'est la grosse question. Ça, il faut bien connaître. C'est sûrement, au point de vue critique, le nœud le plus difficile à saisir. D'où vient ces formes? D'où vient, je vous pose la question, d'où vient ces formes intentionnel et donc les catégories. L'origine des catégories. Puisque les catégories sont au terme, dans le legein. Elles sont donc assimilées. Il y a une signification diverse des catégories qui implique nos divers concepts. Il y a donc une forme intentionnelle qui est première. Cette forme intentionnelle, d'où vient-elle? Comment peut-elle être acquise? Alors c'est ici que je donne une explication, et je prends cette explication à ce que dit Aristote, parce que je n'en trouve pas d'autre explication plus intelligible et mieux que celle-là. C'est celle que saint Thomas a reprise, mais ce n'est pas parce que saint Thomas la reprend, parce que Aristote l'a dit, parce que saint Thomas du reste l'a modifié un tout petit peu. Mais il faut bien se poser le problème, parce que c'est là où on voit que de fait, J'essaie d'expliquer quelque chose que je pose nécessairement. Il y a des formes intentionnelles qui sont au point de départ de ce legein des catégories. C'est impossible autrement puisque je saisis ces différentes déterminations comme des déterminations que je possède au plus intime de moi-même. Ces déterminations, ces catégories ont une signification. Cette signification du terme relève du concept, et ce concept présuppose, puisqu'il est assimilé, une forme intentionnelle première. Vous voyez comment j'arrive à montrer le problème qu'il y a nécessairement des formes intentionnelles premières avant le concept, dont je n'ai aucune expérience, mais je la pose pour expliquer le concept. Pour expliquer cette assimilation intentionnelle. Alors, comment ces formes intentionnelles vont-elles arriver à mon intelligence? Alors, je vous donne l'explication de saint Thomas et d'Aristote. C'est la fameuse découverte du nous poietikos, c'est-à-dire du nous actif. Que saint Thomas appelle l'intellect agent. Je crois qu'il veut mieux dire le nous actif. Où Aristote dit que cet intellect agent, j'y reviendrai après, hein, mais je vois d'abord, parce qu'il faut toujours s'aiguiller, quand on est devant quelque chose de particulièrement difficile, on se sert, c'est normalement, on se sert du sycomore. N'est-ce pas? Alors on se sert du dos d'Aristote, du dos de saint Thomas, pour essayer de voir un peu clair. Et puis on critiquera ensuite cette position d'Aristote et de saint Thomas, pour voir si c'est bien, si. Est-ce qu'il y a une autre explication? Si vous avez une autre explication, c'est très intéressant à avoir. Ça peut être génial. On pourrait faire un petit mémoire de licence là-dessus, hein, ouvert aux amateurs. Expliquer la naissance des formes intentionnelles à la racine des catégories. Ça serait bien comme petit titre de recherche. D'expliquer la naissance des formes intentionnelles qui sont à la racine des catégories. Et donc la signification tout à fait première au niveau de l'intelligence. Ce qui vient déterminer l'intelligence dans ce qu'elle a de plus foncier. D'où ça vient? C'est le passage, vous voyez, de l'image aux formes intentionnelles. Eh bien, Aristote dit qu'il y a nécessairement, pour expliquer ce passage, les images sont de l'ordre de la représentation. Je vous l'ai déjà dit. Et ces formes intentionnelles sont au niveau de la signification. Il s'agit d'expliquer le passage de la représentation à la signification. Expliquer la représentation, c'est facile, je la constate. Je n'ai qu'à fermer mes yeux, je me représente le public que j'ai devant moi. Quand vous voyez n'importe quelle maison, vous fermez les yeux, vous voyez cette maison, vous avez vu, hein. Vous fermez les yeux, vous la représentez au-devant vous-même. Un petit cinéma intérieur. C'est particulier, mais vous l'avez au-devant de vous. C'est très facile, il suffit de fermer les yeux pour que, immédiatement, le sevrage des sens extérieurs fait que l'imagination progresse. Toujours. Le sevrage des sens externes fait que l'imagination produit des images, des représentations. La représentation va engendrer la signification. Mais comment? La représentation, je suis au niveau sensible. Ici, je suis au niveau intelligible. Comment expliquer ce passage? De fait, je ne constate pas, je constate les deux termes, je constate qu'il y a une signification pour ces termes absolument simples, je constate qu'il y a une représentation. Mais je ne vois pas le passage de l'un à l'autre. Alors, Aristote dit que pour expliquer ce passage, il faut donc poser un agent, toujours la grande théorie, un primum movens in mobile, non pas dans l'ordre de l'être, mais un primum movens in mobile dans l'ordre de la connaissance. Ce sont les deux grandes démonstrations a posteriori. Toute la philosophie d'Aristote repose sur ces deux grandes démonstrations a posteriori. Les deux grands termes. Alors, premier movens, immobile. Que saint Thomas dit, que nous appelons Dieu. Selon les traditions religieuses. Parce que les traditions religieuses ne parlent pas beaucoup du premier movens immobile. Non, ça, premier movens immobile, le premier moteur immobile ne fait pas partie des traditions religieuses. C'est la découverte du philosophe. Et Dieu, c'est un nom qui provient des traditions religieuses. La signification de Dieu provient des traditions religieuses. Et le philosophe met un lien entre premier movens immobile et Dieu. Et ce sera Pascal qui dira le dieu des philosophes n'est pas le dieu des chrétiens. Mais c'est parce qu'il n'a pas compris ce que c'est que le premier movens immobile d'Aristote. S'il l'avait compris, il n'aurait pas dit ça. C'est parce qu'il ne l'a pas compris. Il n'a pas compris que le primum movens immobile d'Aristote représentait tout simplement un premier au-delà du mouvement. Il y a nécessairement quelque chose qui est antérieur au mouvement, un premier être. Le premier être, s'il existe, il ne peut être que Dieu. C'est ça, c'est pour ça que de fait, on fait le passage entre l'un et l'autre. Mais il faut bien comprendre le passage entre l'un et l'autre. Il ne faut pas mettre identité immédiatement. Il faut comprendre que Aristote aboutit, au terme de ses physiques, à poser un primum movens immobile. Et il aboutit au terme du de anima, à poser un premier agent qui revient même au niveau du nous. Un premier dans l'ordre de l'esprit. Un premier dans l'ordre de l'esprit qui est, lui, actif. Bien, je crois que ce sont les deux termes qu'Aristote saisit, l'un premier dans l'ordre de l'être, l'autre premier dans l'ordre de la connaissance. Le premier dans l'ordre de l'être, c'est toujours intéressant de voir le premier, le terme, le philosophe cherche l'absolu. Hein. Il cherche ce qu'il y a d'ultime. Qu'est-ce qu'il y a d'ultime dans l'ordre de la connaissance ? Ce qu'il y a d'ultime dans l'ordre de la connaissance, c'est de poser un nous actif. Ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être, c'est de poser un premier moteur immobile. Et vous êtes en face de ces deux premiers que vous atteignez par une démonstration a posteriori. Il s'agit de montrer, d'expliquer, démonstration a posteriori, c'est une explication. J'essaie de comprendre comment, de fait, les réalités qui existent sont des réalités mobiles. J'essaie de comprendre comment ces réalités peuvent être mobiles. Elles peuvent être mobiles tout en existant parce qu'il y a un premier moteur immobile. J'essaie d'expliquer le phénomène de la connaissance. Et le phénomène de la connaissance dans ce qu'il a de tout à fait élémentaire. Le phénomène de la connaissance dans ce qu'il a de tout à fait élémentaire, c'est cette assimilation attentionnelle. C'est le nous qui saisit des indivisibles, qui touche quelque chose d'indivisible. Donc c'est tout à fait élémentaire, c'est tout à fait premier. Je ne peux pas aller au-delà. Et cependant, je peux aller au-delà parce que, de fait, cette connaissance des indivisibles n'est quand même pas première. Pourquoi n'est-elle pas première ? Parce qu'elle implique une opération, et elle implique une opération avec le concours des images. Je ne peux pas penser sans images. Mais quand je pense au-delà de l'image. Il faut affirmer les deux. Je ne peux pas penser sans images. C'est impossible. Et cependant, ma pensée va au-delà de l'image. Pourquoi ? Parce que l'image reste dans l'ordre de la représentation et dans l'ordre singulier. Et ma connaissance peut atteindre l'universel. Or, l'universel ne peut pas se représenter. Essayez de représenter un cheval. Le cheval, pas un cheval, mais le cheval. Essayez de représenter animal. Vous ne pouvez pas le représenter. Parce que, de fait, c'est universel. Donc ça fait éclater toutes les représentations. Vous êtes dans l'ordre de la signification. La signification ne se représente pas. Seule l'image implique une représentation. C'est très important ça pour voir la question de l'audiovisuel. Vous voyez, c'est très important. Parce que l'audiovisuel veut justement unir signification et représentation. Vous voyez bien. À chaque signification, je donne une représentation. Attention, attention, il y a des significations qui ne se représentent pas. Donc il y a l'audio qui enveloppe le visuel, n'est-ce pas ? Et qui ne fait pas le lien constant entre les deux. Je peux, dans l'ordre de la signification, aller plus loin que le visuel. Il ne faut pas bloquer tout le temps les deux. Si je bloque tout le temps les deux, j'empêche et j'arrête l'abstraction. Puisque je passe de la représentation à la signification. Passer de la représentation à la signification implique une abstraction. Blanc, blancheur. Je peux me représenter le blanc du mur. Je ne peux pas me représenter la blancheur. C'est évident, ça. Tous ceux qui y réfléchissent un instant, je crois, comprennent très bien que le blanc du mur peut se représenter, mais la blancheur, non. Essayez de représenter la blancheur. Faites-moi une petite image de la blancheur. Hein. C'est très intéressant, petite image. Demandez à un gosse de représenter ce que c'est que la blancheur. Comme ils ont toutes les audaces possibles, vous représenterez ce que c'est que la blancheur, mais ce sera une représentation. Ils représenteront, mais ce ne sera pas la signification de la blancheur. la signification de la blancheur est au-delà de la représentation. Donc il y a les deux registres de la pensée. Le point de vue représentation, signification. Et le passage entre les deux, c'est une abstraction. Une fameuse abstraction. Une abstraction dont je n'ai pas conscience. Si j'avais conscience de ça, je n'en ai pas. Vous voyez que Aristote ne restait pas lié à la conscience. Il acceptait que l'intelligence aille au-delà de la conscience. C'est très important, ça, c'est la différence avec Descartes. Descartes lie l'intelligence à la conscience. Et l'intelligence n'est pas uniquement liée à la conscience. Il y a quelque chose dans l'intelligence qui va plus loin que la conscience. Autrement dit, je ne peux pas mettre identification entre conscience et Noël. Le Noël va plus loin. Il y a le passage de la représentation à la signification. C'est un fait, je constate ça. Et ce passage, je n'en ai pas conscience. Ce passage implique une abstraction dont je n'ai pas conscience. Comment expliquer cette abstraction? Il s'agit de l'expliquer. Si je veux, je peux simplement la constater. Oui, très bien. Je m'arrête là. Le philosophe n'aime pas de s'arrêter. Il veut encore aller plus loin. Est-ce que, de fait, l'intelligence qui est source de cette assimilation présuppose une dynamis, présuppose une puissance, qu'on appelle le nous, qui est source de la connaissance intellectuelle et de l'assimilation intentionnelle, qui est source de mon legay. Ma parole relève de mon intelligence. Je me pose la question, est-ce que l'intelligence qui explique cette assimilation intentionnelle, qui est à la source de cette assimilation intentionnelle, ne va-t-elle pas être à la source de cette abstraction? Est-ce que mon intelligence n'est pas à la source de cette abstraction? Je peux dire que rien m'empêche de le dire. C'est déjà beaucoup. Je ne peux absolument pas nier a priori que mon intelligence, qui est source de cette assimilation et de mon jugement, rien ne m'empêche de dire que le nous, qui est à la racine de cette première opération intellectuelle, puisse expliquer ce passage de la représentation à la signification. Évidemment, j'allais dire, rien ne permet de le dire, attention, rien ne permet de le nier, je ne peux pas le nier, et tout tend à dire que c'est le nous. Alors c'est là où la démonstration a posteriori doit jouer. Il y a un effet, tout effet implique une causalité. Il y a quelque chose qui apparaît, parce que de fait, ça apparaît, voyez bien quel niveau, ça apparaît au legay. Ça apparaît à ce niveau-là. Si ça apparaît à ce niveau-là, ça implique un concept, donc une connaissance, et cette connaissance étant une assimilation, implique une forme intentionnelle. Je constate la représentation, je suis obligé de poser une forme intentionnelle. Il faut donc expliquer ce passage de la représentation à la forme intentionnelle. Et ce passage de la représentation à la forme intentionnelle, c'est un passage qui se fait au plus intime de ma vie intellectuelle. Je n'en ai pas conscience. Ce n'est pas de l'automatique. Je n'en ai pas conscience. Et il me permet de dire qu'il y a quelque chose de nouveau dans ma vie intellectuelle, parce que cette forme intentionnelle détermine le nous. Donc c'est au niveau de l'intelligence que ça s'explique. C'est donc au niveau même de l'intelligence qu'il faut se demander si l'intelligence n'est pas capable par elle-même d'expliquer ce passage de la représentation à la forme intentionnelle. Est-ce que le nous, qui est déterminé par cette forme intentionnelle, n'est-elle pas capable d'expliquer le passage de la représentation à la forme intentionnelle? Eh bien, je dis oui. Le nous est capable d'expliquer cela. Pourquoi? Parce que le nous est un principe de vie. C'est même, il faut le dire, hein, c'est le principe le plus vital qui est en moi. C'est le nous qui est le principe le plus vital. Je l'ai posé comme principe de vie, dunamis, une puissance vitale qui est source de toute ma connaissance. Et j'ai vu antérieurement que ma connaissance impliquait des raisonnements, que ma connaissance impliquait des jugements, et que ma connaissance implique une saisie. Donc j'ai vu le dynamisme prodigieux au point de vue vital de ce nous. C'est très important de souligner ça. C'est ce qu'il y a de plus vital, le nous en moi. Normalement, évidemment, quand il est endormi, c'est différent. Quand il est endormi, c'est vrai, il faut s'éveiller. Il faut s'éveiller à la vie de l'intelligence. Mais quand la vie de l'intelligence est éveillée, il n'y a rien de plus vital en moi. Et il n'y a rien de plus exigeant que cette vie, qui va aller jusqu'au bout des exigences de cette vitalité intellectuelle, qui veut vraiment saisir cette vitalité intellectuelle dans ce qu'elle a de plus absolu. Ça va très loin, ça. Alors, puisque cette dunamis est principe de vie, elle implique donc un si mauvais rêve. Le propre d'une puissance vitale, c'est de se mouvoir. Il y a donc dans ce nous une initiative au niveau intellectuel qui est première. Or, cette saisie, je l'ai posée comme une assimilation où l'intelligence est déterminée. C'est un topascaïne. L'intelligence pâtit, puisque l'intelligence est déterminée par quelque chose d'autre qu'elle. Cette forme intentionnelle n'est pas la forme de l'intelligence. Et donc l'intelligence est déterminée par quelque chose d'autre qu'elle. Donc il y a ce topascaïne, ce fait que l'intelligence pâtit, que l'intelligence reçoit. Si l'intelligence reçoit et qu'elle est vraiment un sémovere, il faut qu'avant de recevoir, elle soit active. Pas autrement. Autrement, l'intelligence ne serait plus principe de vie. Et ma vie intellectuelle commencerait par une espèce d'attitude qui ne serait pas vitale. J'ai aucune raison de le dire, hein, parce qu'au contraire, je constate la fécondité extraordinaire de ma vie intellectuelle. Et tous les progrès de la science constatent cette fécondité de la vie intellectuelle. Depuis Aristote, la fécondité de l'intelligence n'a cessé de continuer. Dans l'extension. Mais c'est comme ça que je la constate la mieux. C'est la fécondité, c'est comme dans l'extension. C'est le nombre d'enfants, vous comprenez ? Mais peu importe, ce sont tous des nains, ça n'a pas d'importance. C'est une fécondité, n'est-ce pas ? Il y a une fécondité intellectuelle de cette manière-là. C'est l'extension. Oui, je dis, ce sont tous des nains. La science sont des nains comparativement à la métaphysique, vous voyez bien. Je peux dire ça, n'est-ce pas ? Ici, puisqu'on fait de la métaphysique. Mais c'est vrai, la science produit une extension prodigieuse depuis Aristote, comme extension. Les mathématiques se sont étendues énormément. L'intensité de la connaissance, ça je ne le dis pas, mais l'intensité de la connaissance montre aussi la fécondité de l'intelligence. Il y a les deux. Donc cette fécondité de l'intelligence montre que cette dunamis, que ce nous, implique nécessairement au point de départ un sémovere. C'est-à-dire, il se meut. Tout en se mouvant, il est réceptif. Et dans la mesure même où il se meut, il est réceptif. Vous voyez quelque chose d'analogue du côté de la volonté, du côté de l'amour. La volonté est une capacité d'aimer. Or, cette capacité d'aimer, elle implique à la fois une capacité de se donner et une capacité d'accueil. C'est très curieux que dès que je suis au niveau de la vie spirituelle, je vois qu'il y a les deux aspects. L'aspect du don, l'aspect de l'accueil. Du côté de l'intelligence, n'y a-t-il pas les deux aspects, une première activité de l'intelligence qui illumine et une seconde activité de l'intelligence qui est réceptive. Pour être réceptive, il faut qu'elle l'illumine. Autrement, ce ne serait pas un vivant. Ce ne serait pas une faculté vitale. Il faut donc expliquer cette vitalité de l'intelligence qui illumine. C'est pour ça qu'Aristote dit le nous actif, poietikos, il est os phos. Il est comme la lumière. C'est du reste très joli. Il est comme la lumière. Non, c'est une métaphore. Hein. Il est comme la lumière. Que fait la lumière? La lumière permet de voir la couleur. Elle actue, dans la perspective d'Aristote, elle actue le diaphane et permet de voir la lumière, et permet de voir la couleur. De même, au plus intime de ma vie intellectuelle, mon intelligence, dans sa première activité, illumine les fantasmes, illumine l'image, et à partir de cette illumination se produit, au-delà de l'image, mais à partir de l'image, les formes intentionnelles. Voilà l'activité première de cet intellect agent. L'activité première de ce nous, de cette intelligence, dans sa vitalité fondamentale. Cette vitalité de l'intelligence est faite pour comprendre. Mais en même temps, elle comprend en recevant. Mais pour recevoir, il faut justement que ce qu'elle doit comprendre soit amené au même niveau qu'elle pour pouvoir recevoir cette forme. Alors, c'est cette manière de saisir ce point de vue de l'intelligence qui se meut, elle se meut en illuminant les fantasmes, puisque elle a contact avec la réalité par l'imagination, par les images que je me représente au-dedans de moi-même, et illuminant ces fantasmes, ces images, par là se produit dans ces images, ou s'extrait de ces images, plus exactement, sort de ces images, ces formes intentionnelles qui viennent déterminer l'intellect, le nous, qui est passif, le nous capable de recevoir, et qui, étant capable de recevoir ces formes, réagit dans cette assimilation intentionnelle et produit le concept. C'est une explication. Il faut bien le voir, c'est une explication. Mais c'est une explication qui est tout à fait, non seulement vraisemblable, mais que je crois vraie. Je crois qu'on peut affirmer ça. C'est une explication qui est vraie. Pourquoi? Parce qu'elle implique une démonstration a posteriori. Oui, c'est une explication qui est dans une démonstration a posteriori. Il s'agit d'expliquer un fait que je constate. Il s'agit d'expliquer un effet que je constate. Cet effet, c'est que, de fait, mon intelligence, dans ce qu'elle a de plus foncier, assimile des formes dont la signification est tout à fait simple. Il faut donc qu'il y ait à l'intérieur de l'intelligence cette détermination première. Or, cette détermination première n'est pas l'image, puisque l'image est au niveau sensible. Il faut donc nécessairement que l'image passe à un degré d'intelligibilité supérieur, elle ne peut pas le faire par elle-même, elle le fait donc sous l'action d'une causalité antérieure et d'une causalité qui est d'ordre spirituel. Donc, vous voyez, c'est une démonstration a posteriori où je constate et je démontre. Je démontre qu'il y a nécessairement dans ma vie intellectuelle une illumination qui provient d'intelligence. Alors, c'est ici où il serait très intéressant, au point de vue critique, de faire la comparaison entre la manière dont un saint Augustin, dans la ligne du néoplatonisme, vous voyez, on revient toujours au néoplatonisme, hein, toujours, parce que le néoplatonisme nous aide énormément à mieux comprendre la vérité. Ça sert de fond. Alors, ça nous aide. Le néoplatonisme de saint Augustin parle de l'illumination. La fameuse théorie de l'illumination de Saint-Augustin, qu'on retrouve dans Saint-Bonaventure. Vous voyez, ce sont des saints qui ont dit ça, quelque chose. Ils l'ont dit en tant que théologien. Et puis l'illumination que nous dit Aristote, que reprend saint Thomas. Je crois que c'est très important de regarder les deux pour mieux saisir cette position de l'intellect agent posée antérieurement comme illuminant les fantasmes et permettant à partir de là la détermination de l'intellect possible. Mais il faut bien voir, hein, c'est quelque chose que je pose dont je n'ai pas l'expérience immédiate. Attention, quand je dis que je n'ai pas l'expérience immédiate, je peux dire que j'ai l'expérience de l'assimilation, je vous l'ai dit, indirecte par le jugement, et que à partir de là, je peux dire qu'il y a une vitalité de l'intelligence. Cette vitalité de l'intelligence, je la saisis dans ses effets, je peux essayer de la saisir dans sa source. Et la saisir dans sa source, c'est la saisir dans cette illumination. Illuminer les fantasmes qui produisent ces formes intentionnelles. Alors, avant de regarder Saint-Augustin, nous ferons ça après Noël, hein, vous aurez l'esprit reposé. Avant, je vous donne simplement un nota bene à l'usage interne. Saint Thomas appelle cette forme intentionnelle species impressa. Ne sortez pas ces mots-là aujourd'hui. C'est insortable. Enfin, c'est du Saint Thomas pur. Species impressa. Et puis, le concept species expressa. Du reste, très beau. La species impressa, c'est la forme, species traduit eidos, hein, faut pas l'oublier. Donc c'est forme. Parce que c'est pas species du tout comme l'espèce et le genre, hein. C'est pas ça du tout. C'est eidos, ça traduit eidos. Donc c'est la forme. La species peut très bien traduire la forme. C'est même la forme belle. La species, la forme qui resplendit. C'est la species. La species impressa, ça vient de ce fait que quand vous avez un seau sur la cire molle, c'est l'image que prend Aristote, le sceau imprime sa figure, imprime ses marques. C'est ça la species impressa. C'est la forme qui s'imprime dans l'intellect passif qui est tabula rasa. Tabula rasa, vous voyez ce que ça veut dire, hein? C'est pas la table rasée, mais c'est pas ça. C'est tabula rasa. C'est le fait de voir qu'il n'y a aucune détermination. Donc il y a une pure réceptivité. C'est la pure réceptivité de la tabula rasa. Et alors il y a le sceau de la forme impressa, de la species impressa qui se marque là-dessus. C'est une image. C'est que l'intellect par nature, ou en lui-même, donc naturellement, n'a aucune forme innée. C'est pour ça qu'Aristote dit tabula rasa. Il dit ça, tabula rasa, face à Platon. On dirait la même chose face à Descartes. Parce que pour Descartes, il y a des formes innées. Aristote dit non, aucune forme innée. Et saint Thomas a repris exactement cette donnée-là. Quand il dit que toutes les formes qui sont dans l'intelligence sont passées par les sens. Donc tout ce que vous connaissez a été d'abord représenté par l'imagination. Il a été d'abord senti. Puisque toute représentation provient des sensations. Donc aucune forme intelligible n'existe sans être passée d'abord par les sens. Et ça, c'est le réalisme de saint Thomas. Et c'est le réalisme d'Aristote. Je crois que du reste, ça correspond à la réalité, ça, profondément. Ça correspond à cette réalité constante que nous sommes dépendants des réalités, que les réalités nous modifient, que le milieu dans lequel nous sommes peuvent nous modifier énormément. C'est ça que ça représente. Il n'y a pas de formes innées. Votre intelligence n'est pas par nature déterminée dans un sens. Mais elle est très vite déterminée. Et l'importance de la première éducation. S'il y avait des idées innées, la première éducation serait secondaire. Tandis que si l'intelligence est tabula rasa, je comprends très bien. La première éducation donne des plis, des formes, des déterminations qui sont très importantes, indélébiles. Vous ne pouvez plus les enlever. tellement c'est enraciné en nous, tellement c'est les plis de l'intelligence. Alors saint Thomas donc appelle ça species impressa, cette première forme intentionnelle, j'aime mieux dire aujourd'hui forme intentionnelle. Et puis la seconde, la species expressa, c'est le concept, c'est-à-dire la forme intentionnelle intelligente. Alors nous verrons la fois prochaine, pour revenir là-dessus, parce que comme c'est important, la manière dont saint Thomas, à la suite d'Aristote, explique l'illumination de l'intellect agent sur le fantasme, à la différence de l'illumination, de l'illuminisme, de l'illumination d'un saint Augustin.
Est-ce qu'on peut dire que Aristote transpose au niveau de la connaissance qui est née chez Platon au niveau de l'air?